Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. La mort d'un soldat français au Mali, le caporal-chef Maxime Blasco, 34 ans, a été tué au combat par un tireur embusqué. Emmanuel Macron a fait part de son émotion particulièrement vive, alors que la France a entamé son désengagement au Sahel. Nathanaël Charbonnier, dans un instant. Une page se tourne en Allemagne avec les élections législatives de demain dimanche. Dernière journée de meeting aujourd'hui. Angela Merkel appelle à voter pour son dauphin, le conservateur Armin Laschet, au nom de l'avenir de l'Allemagne. Dans ce journal également, la fin d'une grave crise diplomatico-judiciaire entre le Canada et la Chine. La dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei quitte le Canada. Deux Canadiens emprisonnés en Chine ont été libérés. L'actualité, c'est aussi la construction d'un mur qui interroge un mur pour boucher un tunnel entre Pantin et Paris après l'évacuation hier des toxicomanes du jardin d'Éole. Et puis en football, gros plan sur Saint-Étienne en crise. Aucune victoire et l'avant-dernière place au classement avant la 8e journée de Ligue 1. La météo avec des orages dans l'ouest et le sud. 4 départements, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme, placés en vigilance orange pour pluie, inondation et orage. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition et après ce journal à 13h15. Suite de la version XXL du grand face-à-face avec Ali Badou.
France Inter.
Sa mort porte à 52 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013. Le caporal-chef Maxime Blasco du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars en Isère a perdu la vie au combat hier au Mali contre un groupe armé terroriste, indique l'état-major. Le ministère des Armées précise qu'il a été tué par un tireur embusqué. L'Élysée a fait part de l'émotion particulièrement vive du président de la République, Emmanuel Macron, qui réaffirme la détermination de la France dans sa lutte contre le terrorisme. Le caporal-chef Maxime Blasco, 34 ans, avait reçu en juin dernier la médaille militaire pour sa valeur exceptionnelle de ses services. Le général Jérôme Pélistrandi rend hommage à un vrai héros.
À un moment donné, il faut aller au contact. Et ce contact, hier, il a été marqué par le décès du caporal-chef Blasco, mais en même temps par la neutralisation de ce groupe terroriste. Donc c'est ça la difficulté auquel nous sommes confrontés sur le terrain. Et il y a beaucoup d'émotions parce que le caporal-chef Maxime Blasco, c'était un peu en quelque sorte une légende. 4 citations, donc la reconnaissance des actions qu'il avait conduites auparavant d'ailleurs sur ce théâtre. C'était un soldat extrêmement aguerri. Le fait que le président de la République lui ait remis la médaille militaire, ce qui est extrêmement rare pour un militaire du rang, ce qui signifie la très haute valeur. Et donc, oui, hier, c'est un vrai héros, anonyme en quelque sorte, pour l'opinion publique qui est mort. Et j'espère que la nation lui rendra l'hommage qu'il mérite.
Le général Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, avec Jules De Kiss. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors la mort du caporal-chef Maxime Blasco arrive à un moment charnière du désengagement de l'armée française, de la force Barkhane au Sahel, avec une situation politique au sens large qui évolue.
Ah oui, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, la France enregistre des victoires sur le terrain. Je vous rappelle qu'en août, elle a tué le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Abu Walid al-Sahraoui, une opération qui avait été qualifiée de succès majeur. Mais ce succès arrive alors que la force Barkhane est en pleine restructuration puisqu'une partie va quitter le Mali pour le Niger. Et le tout se déroule dans un climat compliqué, avec des tensions assez fortes entre Paris et Bamako, puisque le pouvoir malien envisage de faire venir les mercenaires russes du groupe Wagner, une société paramilitaire, sur le sol malien pour assurer la sécurité du pays. Projet qui a mis la France en colère. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, estime que tout cela est simplement incompatible avec notre présence au Sahel. En résumé, ce sont les Russes ou nous. On le voit, la situation est compliquée, d'autant qu'en France, la campagne électorale débute et qu'il va falloir faire preuve de vraiment beaucoup de pédagogie pour expliquer l'importance de notre présence dans un pays qui ne veut plus de la France, mais où nos soldats continuent de mourir.
Nathanaël Charbonnier, merci. On parle d'anomalie politique au XXIe siècle. La popularité d'Angela Merkel, après 16 années de pouvoir, est au zénith et le principal enjeu des législatives de demain en Allemagne est de savoir lequel des deux candidats incarne le mieux son héritage entre le dauphin de la chancelière allemande, le conservateur Armin Laschet, ou le social-démocrate Olaf Scholz. Le scrutin s'annonce serré avec à la clé de dures négociations pour former une coalition. L'un des faits marquants de la campagne, c'est la relative absence de l'extrême droite qui n'a pas réussi à imposer ses thèmes dans le débat, contrairement aux élections en 2017. Sur place à Berlin, Cyril Sauvageau.
On se souvient encore de ce coup de tonnerre il y a 4 ans, l'entrée au Bundestag d'un parti d'extrême droite, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec 87 députés, l'alternative für Deutschland était même devenue la troisième force politique du Parlement. Pourtant, 4 ans plus tard, l'AfD ne monopolise plus l'attention. Minée par ses divisions, marginalisée par les prises de position radicales de ses cadres, le parti a perdu en crédibilité et n'a pas réussi, faute d'alliés, à incarner une opposition constructive. Surtout, il pâtit du fait que l'immigration n'est plus un thème aussi porteur qu'au moment de la crise des réfugiés. Pendant la pandémie, l'AfD a bien tenté de récupérer le mouvement des opposants aux mesures Covid sans grand succès. Mais même sous les radars, l'extrême droite renforce toujours son ancrage local et s'installe dans le paysage. Créditée de 10% des voix, elle devrait conserver un groupe parlementaire conséquent, pas suffisant toutefois pour rompre le cordon sanitaire qui la sépare encore du reste de la classe politique. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
La fin d'une grave crise diplomatico-judiciaire entre le Canada, la Chine et les États-Unis, avec un double coup de théâtre au Canada dans la seule journée d'hier. La crise ouverte entre Pékin et Ottawa depuis près de 3 ans, après l'arrestation de la numéro 2 du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, a donc pris fin. La directrice financière de Huawei avait été arrêtée en 2018 à Vancouver à la demande des États-Unis. Représailles chinoises dans la foulée, avec l'arrestation de 2 citoyens canadiens, l'ex-diplomate Michael Kovrig et l'homme d'affaires Michael Spavor. Finalement, hier, les États-Unis abandonnent les poursuites contre la fille du fondateur Huawei. Elle est libérée, ainsi que les 2 citoyens canadiens. Récit à Montréal, Hélène Jouan.
1019 jours de détention en Chine pour les 2 ressortissants canadiens, selon le décompte affiché hier, comme chaque jour, à la une de l'influent journal The Globe and Mail. Mais à 21h hier soir, coup de théâtre, le premier ministre canadien Justin Trudeau annonce leur libération.
Il y a 12 minutes, Michael Kovrig et Michael Spavor ont quitté l'espace aérien chinois en route pour la maison.
Une libération qui intervient quelques heures seulement après un accord passé directement entre la justice américaine et l'ex-numéro 2 de Huawei, accusé de rupture d'embargo avec l'Iran et menacé d'extradition par le Canada. À sa sortie du tribunal, Meng Wanzhou est enfin libre.
J'ai apprécié le gouvernement canadien pour avoir respecté l'état de droit. Et merci au peuple canadien pour sa tolérance.
Dans la soirée, Meng Wanzhou quittait sa luxueuse villa de Vancouver où elle vivait en résidence surveillée depuis près de 3 ans pour s'envoler vers la Chine, croisant peut-être l'avion ramenant chez eux les citoyens canadiens, un chassé-croisé qui met fin à la plus grave crise diplomatique jamais vécue entre Ottawa et Pékin. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
L'actualité en France avec une mesure qui provoque beaucoup de questions après l'évacuation hier des toxicomanes du quartier des Jardins d'Éole dans le 18e arrondissement de Paris. Les consommateurs de crack ont été déplacés près de Pantin en Seine-Saint-Denis et hier soir, un mur a été construit à la demande de la préfecture de Paris sous le périphérique dans le tunnel qui sépare Paris de Pantin. La préfecture indique que ce mur doit protéger les habitants de Pantin et éviter toute occupation du tunnel dans ce quartier de la Porte de la Villette. Les habitants, peu convaincus par la construction du mur, craignent une nouvelle colline du crack près de chez eux. Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement, était ce matin l'invitée du 6-9 de France Inter. Elle répond à Éric Delvaux et Karine Bécard.
L'évacuation mène à conduire ces personnes plus loin, dans des endroits dans lesquels il n'y a pas de riverains immédiats. C'est forcément transitoire et après, pour moi, la solution, c'est d'aller vers l'ouverture de ces salles sécurisées qu'on appelle maintenant les haltes santé addiction. Ce sont des endroits dans lesquels les personnes peuvent consommer, mais surtout avoir accès à des soins et démarrer un processus de sevrage. Et je pense que c'est ça la vraie solution.
Et était-ce indispensable d'aller construire à la hâte un mur pour éloigner les riverains des toxicomanes, des riverains qui parlent d'un mur de Berlin et qui demandent effectivement des solutions pérennes?
La question, c'est de ne pas déplacer le problème de riverains vers d'autres riverains. Et ce mur qui bouche un tunnel, ça évite aussi que ce tunnel soit squatté et qu'après, ça devienne un endroit particulièrement dangereux. Ça ne peut être qu'une solution temporaire. On ne peut pas trouver que cette situation est globalement satisfaisante. Ça protège les riverains du 19e arrondissement, ça protège les riverains de Pantin en attendant de trouver une solution.
La politique en France ce week-end, avec des primaires ouvertes ou un congrès fermé, les adhérents du Parti Les Républicains votent depuis aujourd'hui pour choisir la méthode de départage des candidats à la présidentielle. La droite, qui a plusieurs candidats déclarés, saura ce soir comment elle va choisir. À la mi-journée, 32% des adhérents du Parti Les Républicains avaient déjà voté. Résultat, en fin d'après-midi, chez les écologistes, second tour de la primaire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain. À l'issue du premier tour, Yannick Jadot était arrivé en tête avec 27,7% des voix. Sandrine Rousseau avait recueilli 25,14% des votes. Et puis, hors campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a été condamné hier pour diffamation envers un ancien journaliste du Monde. En novembre 2016, Jean-Luc Mélenchon s'en était pris au journal Le Monde et avait qualifié le spécialiste de l'Amérique latine, Paolo Parangonagua, d'assassin repenti. L'avocat de Jean-Luc Mélenchon annonce son intention de faire appel. Le phare de Cordouan planté en mer à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde fête ce week-end son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au programme des visites guidées en continu, des balades à pied ou à vélo le long de l'estuaire, Cordouan, surnommé le phare des rois et le roi des phares, attire désormais beaucoup plus de monde. Pascale Gault, présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde, avec Jeanne Mézia de France Bleu Gironde.
Il y a plus d'intérêt que d'habitude en cette même période. Ensuite, vous savez que de toute façon, nous sommes limités en termes de place sur les bateaux. Nous sommes limités aussi en termes d'accessibilité à cause des marées. Je veux vraiment affirmer que nous ne transformons pas le phare en parc d'attractions. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, pour la saison prochaine, étendre le temps de visite. Nous commencerons dès le printemps et avec une possibilité de venir sur le phare tous les jours de la semaine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et nous essaierons de pousser au maximum, en fonction de la météo, en automne, les visites pour pouvoir absorber ces demandes qui sont importantes.
Du football avec la 8e journée de Ligue 1 qui s'ouvre aujourd'hui avec à 17h le match entre Saint-Étienne et Nice. Chaque match sera scruté à la loupe après les nombreux incidents violents entre supporters des dernières journées. Mais pour l'AS Saint-Étienne, la préoccupation est de marquer des points et des buts. Le club est sur le point d'être vendu. Il occupe l'avant-dernière place au classement. Les Verts sont en crise, Guillaume Batin.
Les Verts sont dans une très mauvaise passe avec 4 défaites consécutives, aucune victoire depuis le début de la saison, 7 buts marqués pour le double de buts encaissés. De quoi faire gomberger le milieu offensif tunisien Wahbi Khazri.
Gomberger, on est obligé. Quand on voit le classement, quand on voit qu'on ne gagne pas forcément, on est tous peinés et j'en vois pas un qui arrive avec le sourire aux lèvres. Mais voilà, je vois que tout le monde travaille, tout le monde est dans le même sens. J'en ai pas encore vu un qui a baissé les bras ou qui triche. Faut vraiment vite se mettre à gagner aussi, c'est important.
L'entraîneur de l'adversaire niçois regarde les difficultés de Saint-Étienne avec compassion. Christophe Galtier, qui a passé près de 8 ans chez les Verts.
C'est une équipe qui est dangereuse, qui harcèle, qui presse et qui se crée beaucoup de situations. Et vous savez, Saint-Étienne est un club historique. C'est un magnifique club, avec une passion autour de ce club à travers la France, même si ça date. Et bien évidemment, que la AS Saint-Étienne, avec la fois l'arrêt de la saison et le Covid et les droits TV, est un club en difficulté par rapport à la conjoncture actuelle.
Les Verts jouent 2 matchs de suite à domicile et veulent en profiter pour remporter peut-être leur première victoire de la saison, cet après-midi face à Nice, et surtout dimanche prochain face à son meilleur ennemi, l'Olympique Lyonnais.
Saint-Étienne-Nice, premier match de cette 8e journée de Ligue 1, débute à 17h avec Guillaume Batin. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
Le nord de la Seine va conserver cet après-midi un temps calme et ensoleillé, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas sur les autres régions, avec des départs d'orages tout de même assez dispersés de la Bretagne au centre Val-de-Loire et du bassin parisien à la Bourgogne. Par contre, plus bas, l'activité orageuse déjà marquée en matinée des Pyrénées au Limousin va se renforcer ce soir et la nuit prochaine. Dans un premier temps sur un axe Languedoc-Val-de-Saône, puis de l'est du Rhône au Jura, Des orages accompagnés de fortes précipitations, parfois plus de 100 litres au mètre carré en l'espace de quelques heures, notamment sur les 4 départements placés en vigilance orange. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans des températures supérieures aux normales de saison cet après-midi, elles vont évoluer entre 20 et 30 degrés de la Manche à la Méditerranée, avec par exemple 25 à Strasbourg et Paris, 28 à Lyon et à Bordeaux.
Jean-Michel Golinski de Météo France.